Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, c'est de midi à 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Autour de moi, il n'y a toujours pas de la scène. Journaliste RMC, Emmanuel Dancourt, journaliste indépendante. Frédéric Herbel, journaliste RMC. Et puis Pierre-Edouard Magnan, président de l'association Chômeurs et Précaires. Dans un instant, faut-il rétablir la perte de points pour les petits excès de vitesse? Voilà, lorsque vous êtes pris par le radar à 56 au lieu de 50 en agglomération. Il faut rétablir ça, ces pertes de points. Parce que c'est supprimé depuis le 1er janvier, ben vous nous appelez au 32-16. À 13h30, le meilleur du jour sur RMC avec le zapping. À 14h, trop de lessive. Nous faisons trop de lessive, c'est ce que nous dit une étude. Sommes-nous devenus maniaques? Et à 14h40, les immanquables, les infos qu'il ne faut pas manquer aujourd'hui.
RMC Estelle Midi.
C'est la lettre du jour, une lettre envoyée par la prévention routière aux candidats aux législatives. Paul, face à la récente hausse de la mortalité routière, la prévention routière, justement, demande à ses candidats d'agir.
Oui, l'association tire la sonnette d'alarme, puisqu'il faut savoir que depuis le mois de janvier, les accidents mortels sont en hausse de 10%, ce qui correspond à peu près à la mise en place de cette mesure de retrait de points. Mais Rémi, là où la prévention routière veut aussi alerter les partis politiques, c'est donc pour un aspect sécuritaire, mais aussi pour un aspect économique. En renforçant la prévention, on peut faire des économies, dit Anne Lavaux, qui est la patronne de la prévention routière. Mettons le paquet et montrons qu'on peut économiser jusqu'à 50 milliards. Oui, parce que d'après l'association, le coût de l'insécurité routière en France, c'est 50 milliards d'euros, soit 1,9 point du PIB total. Alors, comment faire ces économies? Alors, outre le rétablissement des retraits de points pour les petits excès de vitesse, la prévention routière propose 12 autres mesures aux candidats aux législatives dans cette lettre. Par exemple, renforcer la prévention et l'impossibilité de prendre le volant après avoir bu. Il mise notamment sur la mise en place des éthylotests dans tous les véhicules, des éthylotests qui permettraient de faire démarrer les véhicules. Et parmi les autres mesures proposées, on peut retenir le passage du permis de conduire à 17 ans ou encore réduire la vitesse à 30 km/h dans toutes les agglomérations.
Faut-il rétablir la perte de points pour les petits excès de vitesse? Vous nous appelez au 32-16. Emmanuel Dancourt.
Ah oui, il faut rétablir, tout à fait. Et pourtant, je contribue beaucoup, moi. Je fais des tout petits excès de vitesse et je perds des points. Et non, mais il faut rétablir parce que c'est un très mauvais message envoyé aux automobilistes. C'est un message de cool, de laisser faire, de c'est pas grave, c'est juste quelques kilomètres heure. T'as dépassé de 5 kilomètres heure, sauf que 46% des accidents mortels sont provoqués par des accidents à des vitesses de moins de 10 kilomètres heure. Donc c'est un message, c'est vraiment ça va à l'encontre de la politique depuis plusieurs années qui est menée pour soutenir justement les politiques de sécurité routière. On sait que c'est compliqué, la voiture, la bagnole, comme dit le président qu'il adore, c'est un sujet qui touche de très très près les Français. On sait aussi que 1%, quand on baisse la vitesse moyenne de 1%, ça entraîne une baisse de la mortalité de 4,6%. Donc a fortiori, si on l'augmente, ça augmente la mortalité. Donc ça va à l'encontre totale de la santé publique, de notre sécurité. Et ça ne nous incite pas à la prudence. Donc même si ça joue contre mon camp, puisque j'en perds beaucoup des points à cause de ça, et puis il faut évidemment le faire.
Pierre-Edouard Magnan.
J'aurais un peu la même position, et je trouve que ce qu'évoque Emmanuel, c'est la contradiction entre l'individuel et le collectif. Individuellement, se prendre un point à une amende parce qu'on était à 55 au lieu de 50,
ça fait pas plaisir.
Carrément, ça fait chier, quoi. Faut le dire. Tu t'énerves quand t'es devant ton enveloppe. Quand on met tous tes agglos à 30 à l'heure, qu'il y a personne, qu'il est 11h du soir, tu dis, putain, il me casse les pieds, je dérange personne si je roule à 50. Donc, individuellement, c'est des contraintes, ça casse les pieds et on se dit,
sachant que à chaque fois que je le dis, quand on parle de prévention routière, mais je tiens à répéter, si tu es pris à 55 au lieu de 50, ça veut dire que tu roulais,
on est
plutôt autour de 60 que de 50.
On est bien d'accord.
Parce qu'il y a la marge d'erreur technique.
Déjà la marge
d'erreur. Voilà. Et plus, sur les véhicules modernes, tu sais que lorsque ton véhicule t'affiche 50, réellement, tu es à 47.
Il y a 3 ou 4 km au-dessus.
Non, mais donc, ce qui veut dire. On n'est jamais pris. Parce que je veux dire, on ne perd jamais un point parce qu'on roule à 52.
On est tout à fait d'accord. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu montes la limite, si tu veux, on dit, bah, si c'est 50, si j'ai 5 km/h, la limite est 55, donc je roule à 60. Mmh. Et puis en plus, oh, bah oui, 60, c'est 56 quand j'ai les radars d'affichage de vitesse. Ouais. Bon, bah, du coup, je vais me mettre à 64, parce qu'on peut régler en plus maintenant le limiteur au kilométrage près. Donc, on est sans arrêt augmenté. Et donc, collectivement, c'est évidemment un très mauvais signal, parce que ça veut dire que la sécurité routière n'est plus une priorité. Ça veut dire qu'on veut arrêter de casser les pieds aux braves gens, et donc, on les laisse conduire. Enfin, c'est le signal collectif, effectivement. Et donc, individuellement, c'est évidemment une contrainte. C'est évidemment casse-pied. On s'est tous fait aussi toper un jour à un feu rouge parce qu'on n'avait pas vu que c'est un feu rouge radar. Vous savez, vous suivez les gens, vous êtes un peu en embouteillage, ouais. QAQ, et puis bah, vous vous faites attraper. Franchement,
tant
c'est
pis.
Très très énervant.
Tant
mais après, c'est les règles et c'est aussi notre faute. On s'est tous fait prendre aussi. Les endroits qu'on connaît, on ne connaît pas. Vous savez, une voie rapide à 110, puis vous passez autour d'une agglo, elle passe à 90. Vous ne l'avez pas vu.
Ouais.
On s'est tous fait au moins un panneau là-dessus. Mais la règle est la règle. Le mieux, c'est effectivement de limiter sa vitesse. Pour le coup, on évoquait les régulateurs. C'est quand même les régulateurs et les limiteurs sont quand même aujourd'hui des outils assez formidables pour être sûr de pas mettre le coup d'accélérateur de trop ou de rater le truc. Et effectivement, collectivement, on voit les faits. On donne de mauvais signaux. La mortalité remonte. On sait que c'est un combat permanent. La barre des 3000, je rappelle que quand on a lancé les programmes de prévention routière, c'était aux années 70. Je crois que c'était 17 000 morts par an. Puisqu'il y avait eu tout un spot à l'époque. C'est vieux, dans les années 70. C'était la population, c'était l'équivalent des habitants de la ville de Mazamet. Et il y avait une campagne de pub où on avait fait coucher tous les habitants de Mazamet par terre. Pour dire, en gros, chaque année, on tue la ville de Mazamet. Et donc, c'est donc en 72 ou 73. On a réussi à arriver sous les 3000 dans les années 2000. On voit que ça commence à partir. Il faut remettre le paquet, il faut remettre le signal. Et c'est pas une contrainte, c'est une sécurité.
Fred, est-ce qu'on rétablit la perte de points pour les petits excès de vitesse en dessous de 5 km/h?
Non. Non, je pense qu'il faut arrêter de toujours criminaliser les Français dans leur petit quotidien. C'est-à-dire que il y a déjà l'amende. L'amende n'est pas supprimée. Et ce qui touche le plus
90 euros aussi.
Les gens, c'est l'amende. 90 euros, excuse-moi, enfin, quand tu vois le pouvoir d'achat aujourd'hui des Français, 90 euros, tu le sens, quoi. Donc moi, je suis contre la double peine, en fait. Contre la double peine. Et surtout, il y a plein de professions où un petit point, plus un petit point, plus un petit point, et puis la personne ne peut plus bosser. Quand tu es représentant de commerce, c'est tout le temps en train de rouler. Ouais. Donc automatiquement.
Sachant que, excuse-moi Fred, hein, parce que je me permets, c'est pour alimenter le débat. Ceux qui perdent leur permis, dans l'écrasante majorité des cas, c'est des grands excès de vitesse.
Oui, alors, ça, mais non,
c'est jamais pour un point plus un point.
Il y a aussi des gens qui cumulent, qui de par leur métier. Il y a aussi des gens qui de par leur métier sont obligés de prendre la voiture toute la journée.
Oui, mais
on le sait.
Oui, mais encore une fois, c'est jamais facile. Tu ne perds jamais tes 12 points
Oui, sauf qu'à un moment, quand on a perdu 6, parce que voilà, enfin, mais je trouve que ce qu'il y a de pire pour les gens, c'est bien entendu l'amende, et ça, bien entendu qu'il faut qu'elle soit toujours là, mais je trouve pas ça dramatique. Alors c'est vrai qu'il y a une coïncidence de date entre la mise en place de cette mesure et la hausse du taux de mortalité. Je ne sais pas, moi je fais confiance à la sécurité routière, s'il y a une vraie corrélation entre les deux. Mais à un moment, moi je pense qu'il faut plutôt... Il y a un vrai problème de formation des conducteurs dans ce pays. C'est-à-dire qu'il est clair qu'aujourd'hui, tu as quand même... ça coûte très très cher de passer son permis. Tu n'es pas toujours très très bien formé. C'est-à-dire que quand tu sors de l'auto-école, tu ne sais pas conduire. Je suis désolé.
Ah bon ?
Ah non, c'est l'expérience... qui fait.
Ah oui, non, mais d'accord.
Oui, ça s'appelle la conduite accompagnée.
Tu connais quand même ton code de la route.
Je suis désolé. Moi, une semaine après mon permis, je ne savais pas conduire.
Tu sais quoi, Frédéric? Je sais que tu n'es pas du genre à te dégonfler. Je sais que tu es quelqu'un de brave. Eh bien, je vais te faire dialoguer avec Jean-Baptiste.
Mais bien sûr, mais je serais ravi.
Qui est moniteur auto.
Mais je suis sûr que Jean-Baptiste serait ravi de pouvoir avoir moins de frais pour pouvoir donner plus d'heures de cours.
Bonjour Jean-Baptiste.
Oui, bonjour, bonjour toute l'équipe.
Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. On est en Ille-et-Vilaine à Guy Primessac, c'est ça?
C'est ça.
Merci de nous rejoindre. Jean-Baptiste, vous êtes moniteur auto-école.
Oui, bah moi je suis plutôt formateur au niveau de tout ce qui est transport, donc je suis moniteur auto-école, mais pour tout ce qui est groupe lourd. Donc moi je vais être formé, par contre, tout ce qui va être les futurs chauffeurs routiers, futurs chauffeurs de bus.
D'accord, ok. Jean-Baptiste, est-ce qu'il faut rétablir la perte de points pour les petits excès de vitesse?
Alors moi je pense que c'est pas utile et c'est bien un manque de formation qu'il y a au niveau des gens et de tout bord, hein, qu'ils soient cyclistes, piétons, automobilistes, chauffeurs de camions. En fin de compte, les gens ont un problème de formation. Moi j'ai vu au sein des formations que je peux animer. Alors, en fin de compte, il y a des gens qui sont pourtant qui ont 40 ans de conduite derrière eux d'un véhicule lourd, et quand on les fait conduire par exemple pour de la conduite un peu économique, ils réalisent qu'en fin de compte, en prenant leur temps, sans dire prendre le temps, mais en
réduisant un peu leur vitesse, ouais.
Voilà, en anticipant, en faisant plein de choses, on réduit le stress au volant, réduit la consommation, on réduit plein de choses.
Et on perd pas beaucoup de temps finalement.
Ah non, vous en gagnez. J'ai vu le cas un coup où que la personne a cru qu'elle avait perdu du temps et en fin de compte, on avait une moyenne de vitesse supérieure sur le même trajet. Et on avait gagné 4 litres au 100.
C'est-à-dire qu'elle évitait les coups d'accélérateur, quoi. Elle avait une vitesse régulière, quoi.
C'est ça. Et en fin de compte, il suffit, quand vous voyez un rond-point, un stop, de lâcher l'accélérateur, de ralentir gentiment et de laisser votre véhicule faire. Et en fin de compte, vous allez moins consommer, etc.
Mais Christophe, Jean-Baptiste, c'est un problème de formation ou c'est un problème de comportement?
C'est un problème de formation et de comportement, parce qu'en fin de compte, les automobilistes, des fois, quand ils se sentent au centre de leur voiture, ils se sentent un peu Dieu tout-puissant. Mmh. Et même après, les autres usagers, hein, parce que quand on voit des trottinettes comme en agglomération, ce genre de choses, c'est qu'on peut pas avoir la même conduite comme moi qui est dans un petit village que quand on est dans une grande ville comme Rennes, qui est pas trop loin de chez moi.
Après, Jean-Baptiste, vous connaissez la culture française, on est un peu une culture latine. Oui. Tant qu'on n'est pas puni, on a bon dire, ouais, ça c'est. En agglomération, 50 c'est 50, ouais, mais moi je conduis bien. Donc,
après, je pense que quand les gens sont punis, parce que moi je vois beaucoup de gens qui des fois ont perdu un point par-ci par-là, et ben, en fin de compte, rien que le fait de l'amende à payer, j'imagine, c'est assez punissable pour certains. Après, c'est vrai que
moi je trouve pas.
C'est pas équitable.
Moi, je trouve pas. Et ce que je trouve bien, vous trouvez pas, Jean-Baptiste, que ce qui est bien, c'est que finalement, les points, on les récupère plus vite maintenant. On les récupère en 6 mois, s'il nous est rien arrivé, évidemment, plutôt qu'en 1 an. Et moi, je préfère cette formule-là, parce que le point, il y a quelque chose de l'ordre du symbole. On se rapproche du stage. Et pareil, les stages, on peut en faire un par an, je crois, maintenant. Avant, c'était un tous les 2 ans.
Oui,
pour attraper les points. Et je trouve ça intelligent, honnêtement, comme procédure, comme mesure.
Après, les stages. Après, il y a des gens aussi qui réalisent pas, qui savent pas vraiment le nombre de points. Après, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec l'outil informatique. Quand j'ai de nos générations, ça va. Et quand vous avez des gens comme mes parents ou ce genre de choses, l'outil informatique pour savoir le nombre de points qu'ils ont, c'est plus compliqué. Après,
moi je reçois une lettre pour me le dire.
Jean-Baptiste, vous qui êtes formateur, moi je reviens sur
Fred.
Moi, j'ai le sentiment que le nombre d'heures obligatoires pour pouvoir passer son permis ne sont pas suffisant. Je pense que
généralement t'en fais plus.
T'en fais plus, mais même. Jean-Baptiste, vous êtes d'accord avec moi que quand on sort de l'auto-école, quand on a son permis, on ne sait pas encore vraiment conduire.
Bah oui. Tout à fait d'accord avec vous. Alors là, j'ai entendu tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'en plus, ma femme est monitrice auto-école, elle en VL, et c'est vrai que on voit bien les gens quand ils vont au permis de conduire, ils ont le permis, et c'est sûr, ils ont les bonnes choses à faire parce que sur un parcours d'examen, qui dure environ 30 minutes. Mais en fin de compte, après, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, les gens sont lâchés. Et
ça a toujours été, Jean-Baptiste.
Oui, mais on peut peut-être améliorer ça.
Moi, le jour où j'ai le plus peur de ma vie, je me souviendrai toujours. J'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi. J'avais 8 ans, elle venait d'avoir son permis à 18 ans. Et elle a dit, faut que je conduise. Elle venait d'avoir son permis dans la journée. Et elle me dit, faut que je conduise tout de suite. Viens avec moi, je serai plus rassuré. J'ai cru que j'allais mourir. Hein. J'ai eu peur.
Non, mais je suis d'accord.
Ça a toujours été.
Mais c'est vrai qu'il y a. En fin de compte, c'est sûr que la conduite s'apprend au fur et à mesure des années. C'est sûr que même moi, qui a été jeune permis, on est tous passés par là. C'est sûr que entre le moment où j'ai eu mon permis et maintenant. Il y a une différence de conduite. Après, il y a aussi les choses de la vie qui font que quand vous êtes parents, quand vous avez eu des enfants, vous ne conduisez pas pareil que quand vous êtes jeune, tout fou et que vous venez d'avoir 18, 20 ans, quoi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste, qui nous appelait depuis Guipry, Messac, en Ille-et-Vilaine. Christophe Ramon nous rejoint. Bonjour, Christophe Ramon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous êtes directeur des études de la prévention routière. Et justement, c'est la prévention routière qui a adressé cette lettre aux candidats aux législatives, leur réclamant un certain nombre de mesures et notamment le rétablissement de la perte de points pour les petits excès de vitesse. Pourquoi il faudrait rétablir cette perte de points?
Ce qu'on veut rétablir, c'est l'aspect pédagogique de la sanction. Là, aujourd'hui, pour une petite infraction de vitesse, vous allez payer une amende et vous ne perdez pas votre point.
Et ceux qui ont les moyens de la payer, l'amende.
Voilà, mais ça concerne tout le monde. Cette amende persiste. Par contre, quand on perd un point suite à une infraction, il y a une carotte, c'est-à-dire que si vous ne commettez pas de nouvelles infractions dans les 6 mois, vous allez récupérer votre point. Donc vous êtes incité à être particulièrement vigilant pendant ces 6 mois et à ne pas commettre de nouvelles infractions. Et donc c'est ça qu'on a perdu avec cette mesure.
Et vous mettez ça directement en lien, Paul nous l'a expliqué tout à l'heure, avec la hausse de la mortalité routière actuelle.
Oui, effectivement, il y a une hausse de la mortalité routière sur les depuis le début de l'année, c'est plus de 10% de tués, et en particulier pour les usagers vulnérables, c'est-à-dire les piétons, les cyclistes, les motards, on a une hausse de 27% du nombre de tués. Ça fait
parce que quelques kilomètres par heure, ça paraît pas, mais ça peut être déterminant pour dans la gravité d'accident, c'est ça. Hein
autant en voiture, on se dit, je suis à 35 kilomètres heure au lieu de 30, j'ai l'impression d'avoir le même niveau de sécurité. Autant lorsque vous les piétons qui croisent ces véhicules ou les cyclistes, eux, sont beaucoup plus en danger parce que les distances de freinage sont allongées et puis aussi la violence de l'impact va être plus importante. Hein. Chaque kilomètre heure de plus à l'impact, c'est des chances de moins de survivre.
À l'époque, parce que c'est une décision qui a été prise par l'actuel gouvernement, le ministre de l'Intérieur l'a défendu, cette mesure de suppression de la perte de points pour les petits excès de vitesse, c'est Gérald Darmanin, c'est entré en vigueur au 1er janvier. J'imagine qu'à l'époque où ça a été dans les tuyaux, cette mesure par le gouvernement, vous en avez discuté avec les autorités. Comment on vous a justifié cette suppression de la perte de points?
On s'est opposé à cette mesure et on n'a pas vraiment eu de justification sur le plan de la sécurité routière. Et ce qu'on observe depuis le début de l'année, hein, c'est que à peu près tous les voyants de la sécurité routière sont au rouge. On a une hausse de la gravité des accidents. Et ça, on n'a pas tous les indicateurs encore, mais on peut le lier à des vitesses plus importantes, à un comportement qui a changé sur la route.
Je vais vous poser une question, elle est un peu brute de décoffrage, mais est-ce qu'on a sacrifié certaines vies, en tout cas, est-ce qu'on a sacrifié la sécurité routière au nom du populisme ou d'une mesure électoraliste, pardon?
Ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que la France a engagé au niveau international à des objectifs de réduction par 2 du nombre de tués sur la décennie. Aujourd'hui, il faudra avoir une baisse du nombre d'accidents mortels de 9% par an. Et là, on est à 10% depuis le début de l'année. Donc, on ne va clairement pas dans la bonne direction.
Merci Christophe Ramon d'avoir été avec nous, directeur des études de la prévention routière. On repart au 32-16 pour accueillir Henri, c'est ça? C'est Henri qui est avec nous, Denis, je vois pas bien. Jean, pardon, rien Jean. À voir. Rien à voir. Heureusement que je suis pas au volant. C'est Jean qui est avec nous. Bonjour Jean.
Bonjour.
On est dans les Bouches du Rhône.
Bonjour à tous.
À Château-Renard, c'est ça. Là, ça, j'arrive à bien le lire, Jean.
Voilà, c'est ça.
Vous faites quoi dans la vie, Jean?
Je suis directeur régional, je gère un réseau de magasins et donc je suis sur la route
très régulièrement
toute la journée. Voilà, bon. Je fais kilomètres par mois, voire plus.
Est-ce qu'il faut rétablir la perte de points pour les petits excès de vitesse?
Évidemment que non, parce que ça suffit la double peine. Donc, est-ce que vous pensez que les gens se disent bon, allez, c'est pas grave si je paye? Ben non, vous en parlez au pouvoir d'achat. Évidemment que moi, je fais attention parce que j'ai pas envie de payer une amende. Évidemment que j'ai encore moins envie de perdre des points. Surtout que si je perds mes points, je perds mon travail. Moi, je fais depuis 30 ans très attention, mais ça m'empêche pas 3, 4, 5 fois par an de me faire un petit 71 au lieu de 70 parce que ça passe à 90, ça passe à 70, ça passe des panneaux à 90 de temps en temps alors que c'est toujours limité à 130. C'est un foutoir complet. Et pourtant, en 30 ans, je dois cumuler plus de 2 millions de kilomètres et j'ai jamais eu le moindre petit accident. Et ces gens de la sécurité routière, je ne sais pas quelle est leur expérience dans ce monde de la circulation, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient très concernés par les gens qui travaillent dans ces métiers, qui risquent de perdre l'emploi. Vous imaginez quelqu'un qui perd son boulot parce qu'il a perdu un point? Enfin, moi, j'ai déjà dû refaire à cause de un point, j'ai déjà dû refaire.
Christophe Ramon n'est plus avec nous. Christophe Ramon de la prévention routière n'est plus avec nous, mais je pense que s'il était encore avec nous, il vous répondrait, pas très concerné par le travail des gens, mais lui, il vous dirait, moi, je suis concerné par la vie des piétons, la vie des automobilistes et la vie des usagers de la route.
Dans les associations, justement, qui luttent pour la sécurité routière, c'est souvent des parents qui ont perdu des enfants. Donc, je pense qu'ils sont très concernés. À un moment, il faut mettre au même niveau les choses, oui, si
non,
je puis me permettre.
On n'est pas concerné parce qu'on a perdu un enfant sur un accident qui est arrivé une fois. Ça ne concerne pas, ça n'a rien à voir pour moi avec quelqu'un qui, dont c'est le métier, qui travaille tout le temps et qui risque pour 1 km/h de perdre son travail.
Enfin, vous, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, vous le savez, vous faites de la route, Jean. On perd pas un poids pour un
tellement de mauvaise foi que je ne sais pas quoi répondre.
Si, moi, j'ai dû refaire des sessions de comment on appelle ça.
Oui, mais encore une fois, il y a la marge.
Bah, c'est pas grave, chouchou.
Pardon, excuse-moi, Emmanuel. Il y a la marge technique. Si vous êtes pris par un radar automatique, elle est entre 4 et 5 km/h. Et vous le savez aujourd'hui, sur les véhicules modernes, il y a une sous-estimation de la vitesse. C'est-à-dire que lorsque ça affiche 50, vous êtes en fait à 47. Donc, lorsque vous avez pris un poids, lorsqu'on prend un point, ça veut dire qu'on roule au moins au-delà de 7 km par heure de la vitesse autorisée.
Donc à 50, je ne suis pas dangereux, mais à 57, je suis dangereux.
Bah, c'est ce que dit la prévention,
on dirait,
c'est ce que dit les statistiques.
46% des accidents mortels se passent à moins de 10 km/h. C'est quand même parlant comme chiffre.
Oui, mais ce n'est pas forcément donc, uniquement la vitesse qui est en cause.
Jean, allez-y.
Donc, roulons à moins de 10 km/h si c'est trop dangereux. Mais plus on limite, plus on va s'arrêter. Enfin, la vie va de plus en plus vite. Moi, je pars à 7h du matin pour rentrer à 19h pour pouvoir faire mes 200 ou 300 km dans la journée. Et je respecte les limites. Mais franchement, je n'en ai pas envie. Il y a des moments où je suis tout seul, quand il est tôt le matin ou le soir, où je pourrais facilement, je me fais doubler à des vitesses de fou.
Non, mais on vit tous la même chose, je suis d'accord, Jean. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais bon, mais voilà. Et après, le problème, c'est que tant que ça n'arrive pas, on le fait, malheureusement.
Mais oui, parce qu'après, il y a des belles volontés. Moi, je trouve ça très bien. Moi, je me souviens à l'époque quand Jacques Chirac a fait de la lutte contre la violence routière une cause nationale. On a vraiment fait baisser les chiffres et c'est très bien. Mais après, il y a la réalité du quotidien. Et ce que nous explique Jean, et les gens se reconnaissent dans ce que disent.
Oui, je lui ai dit. Moi-même, je m'y reconnais.
C'est parce que j'ai dit qu'on se reconnaît.
Oui,
c'est vrai.
Mais
c'est juste.
Mais
il y a une réalité. Les routes les plus accidentogènes sont les lignes droites par gauche.
Et la pression sur les livreurs.
Mais alors dans ce cas-là, on comprend, c'est votre job, allez-y, roulez.
L'automobiliste n'est pas le seul responsable de ça.
Oui. Responsable de la vitesse.
Non, mais le livreur, il a une pression de malade aussi de son patron. Parce qu'il est payé au rendement.
Mais c'est pas parce que le patron est un con qu'il faut.
C'est pas simplement qu'une petite interdiction qui va tout changer. C'est un système à revoir. Tu comprends? L'automobiliste qui est.
Ouais, enfin,
il n'est pas le seul responsable.
Ouais, enfin, il y a la responsabilité individuelle
après,
quand même.
Et au bout d'un moment. N'importe comment. On ne parle pas de cela.
Il faut arrêter de se déresponsabiliser.
Non, on ne parle pas de cela.
Tu sais quoi, moi, les seules fois où je me suis pris quelques PV, c'était pour des. Alors, je devais rouler. Une fois, je me suis fait prendre parce que c'était limité à 80 et je roulais à 90 au moins. Donc, je me suis fait prendre très bien. Moi, ça m'a calmé tout de suite. Je me suis dit, je n'avais jamais perdu de points. J'ai vu un point en moins. Je l'ai récupéré au bout de 6 mois. J'étais bien content de l'avoir récupéré. Ça calme quand même. On a beau dire ce qu'on veut. Et quand on a les moyens de payer 90 euros, Fred,
que 90 euros. Pour l'immense majorité des Français, 90 euros, c'est beaucoup d'argent.
Je suis d'accord avec toi.
Oui, mais penser que les Français sont riches. Les Français ne sont plus riches. 90 euros, c'est une fortune pour beaucoup de gens.
J'ignorais totalement.
Parce qu'à chaque fois, on me sort le truc. Oui, mais c'est discriminatoire et tout. Mais pour l'immense majorité des Français, 90 euros, c'est beaucoup d'argent.
En tout cas, c'est très étonnant. Moi, je trouve ça très étonnant. On vous a posé la question. Faut-il rétablir les pertes de points pour les petits excès de vitesse? La question, elle est claire. La réponse?
Non. Non, un non très clair aussi pour 77.
Évidemment, bon, allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi avec le zapping,
le
meilleur du jour sur RMC. C'est tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h, pardon, sur RMC, RMC Story. Tout de suite, bah oui, c'est l'émotion, parce que, tu sais, tout est bon sur RMC, mais là, c'est le meilleur du jour.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
Et on commence avec Charles Matin. L'autorité à l'école est-elle l'urgence pour l'éducation nationale? Hier, le président du RN, Jordan Bardella, a annoncé vouloir un bing-bang de l'autorité pour l'école, avec notamment l'instauration de sanctions planchers, de conseils disciplinaires, de centres spécialisés pour les élèves perturbateurs ou harceleurs. Mais pour la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public, la PEP, la priorité, elle est ailleurs. Son porte-parole, Laurent Zamekowski, était l'invité ce matin d'RMC.
déjà pour avoir de l'autorité, il faudrait déjà avoir des surveillants pour pouvoir faire régner justement l'ordre. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'en a pas assez. Donc peut-être qu'on va commencer par trouver les personnels, déjà par commencer par les enseignants. Et peut-être après, on verra si on arrive à faire régner l'ordre.
C'est ça pour vous l'urgence ? C'est d'abord de recruter ?
Évidemment, je veux dire, si vous avez des élèves qui n'ont pas d'enseignants, où est-ce qu'ils vont aller ? Je veux dire, c'est pas une garderie l'école, on est là pour apprendre. Et donc, ce sont d'abord les enseignants qui peuvent transmettre ces savoirs.
C'est ça la priorité, Emmanuel ?
Ben, la priorité, c'est qu'il y ait des profs de maths aussi. Mais il a raison, lui, il parle des enseignants. Moi, j'ai tout de suite pensé prof de maths. La priorité, c'est déjà qu'on ait des enseignants de qualité, qui aient fait des études pour ça, qui sachent passionner nos gamins. Après, je sais qu'il y a effectivement, dans certains endroits, des problèmes d'autorité, parce que les gamins se sentent de plus en plus autorisés. Le lâcher-prise qu'on a sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, il arrive vraiment dans les classes, notamment. Mais déjà, on manque de personnel, donc ça va être difficile. Après, bon, personne n'est dupe, j'espère, en tout cas, de cette mesure électoraliste de Gabriel Attal qui va encore choper du côté de Jordan Bardella. Pardon.
Le lapsus, il est très drôle. Magnifique. Ah bah oui, puisque c'est exactement ce que nous a dit Gabriel Attal.
Attention, dans son discours de politique générale lorsqu'il est arrivé à Matignon.
Et quand il était ministre de l'éducation nationale.
Donc
voilà,
choc d'autorité.
On est exactement sur la même chose.
Qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit, ce lapsus ?
Que c'est la priorité.
Ça dit que ça va chercher les électeurs très à droite.
Non, c'est pas chercher les électeurs. C'est la réalité.
C'est moi qui l'ai fait, le lapsus. C'est moi qui l'ai fait. Donc je vais te le dire. Ça veut dire qu'ils vont choper les électeurs qui votent à droite.
Il ouvre les yeux. Il y a un problème d'autorité à l'école en France, c'est évident. Il y a un problème d'autorité dans la société. Et ça commence par l'école. Voilà, les gens de 50 ans, tu peux plus les rééduquer. Les gens à 8 ans, tu peux encore éduquer les gens.
Pierre-Édouard,
d'abord les gamins.
Il y a toujours eu des problèmes d'autorité à l'école, il peut y en avoir aujourd'hui. Après, il n'y a pas des problèmes d'autorité dans toutes les écoles. Ma fille ne tutoie pas son institutrice.
Mais ça, c'est bien.
C'est pas la jungle. Et ma fille n'est pas dans
l'école privée.
On en a Stanislas. Enfin, je veux dire, voilà, elle est dans l'école publique de
sa commune. On en a discuté entre nous, et puis moi, j'en ai discuté autour de moi. Je ne connais pas d'enfant qui tutoie son prof. Sauf si le prof lui a demandé.
Je dis ça parce qu'il a vraiment évoqué le vouvoiement.
Bah oui, d'accord.
Non, mais c'est pour ça que je te dis, il demande à ce que tous les élèves vouvoient.
Moi, je ne connais pas personnellement, et j'ai du monde autour de moi dans l'enseignement qui m'a dit, enfin, moi, je connais pas de prof, sauf si le prof, on fait la demande express auprès des élèves, qui se fassent tutoyer par ses élèves.
Tout le monde vous voit, déjà. La question du personnel est une question importante. En plus, je suis heureux d'entendre la PEP le dire, parce que tout le monde connaît pas forcément les organisations de parents d'élèves, mais la PEP, c'est pas forcément l'organisation la plus mélancoliste de l'éducation nationale. Donc, c'est assez
intéressant à droite,
de voir ce positionnement. Intéressant, parce que souvent, dans la STPE, on entend une organisation. Il y a évidemment un problème de personnel et un problème d'encadrement dans les établissements. Après, il suffit pas de sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'autorité, pour faire croire qu'évidemment, on va tout de suite régler les problèmes de l'école. Donc, après, qu'il y ait des questions en termes de parentalité, qui est effectivement, tu parles des réseaux sociaux, qui est des questions aujourd'hui, on habille de bienveillance, certains gamins font ce qu'ils veulent. Oui, effectivement, il y a des questions, mais c'est une question d'éducation nationale, c'est aussi une question de parentalité, et là aussi, il y a des problèmes de politique publique sur la parentalité. Le travail n'est plus fait aujourd'hui, y compris par les associations, par les structures autour et les structures sportives, par exemple, parce que ça va au-delà de l'école. Mais effectivement, agiter le petit drapeau autorité, il est pareil, on va interdire les portables au collège et au lycée. Bah, au collège, ça tombe bien, c'est déjà interdit. Après, le vrai sujet, c'est que ça va être plus
ça, c'est Macron, c'est pas Bardella. C'est Macron.
Jordan Bardella aussi.
C'est Macron qui l'a annoncé il y a 15 jours, ça aussi. Hein.
Qu'est-ce qui s'est passé quand on fait genre d'interdiction ? Les 6 premiers mois, on confisque des portables, on dit attention, c'est pas bien, et puis après tout le monde se relâche. Parce qu'en même temps, vous allez vous mettre tous les parents à dos. Oui, mon gamin, je veux qu'il m'appelle quand il sorte. Donc, c'est une vraie. Et je dis ça pareil, ma fille, elle a pas de téléphone portable pour l'instant. Je suis très tranquille. Elle a 11 ans. Elle rentre au collège.
C'est rare.
C'est pas la première fois que Bardella propose une mesure qui existe déjà. Il a proposé, par exemple, que les gens mariés avec. Il y a une personne handicapée dans le couple. Avant, quand on était marié, la personne handicapée ne touchait plus son allocation. Et depuis 2 ans, ça a été, c'est bon, ça a été réglé. Oui. Ça a été réglé il y a 2 ans. Et lui, il ne le sait même pas. Donc, il repropose la mesure. Enfin, c'est pas la première fois qu'il propose des choses qui existent déjà.
Il me semble que l'Assemblée nationale avait voté cette loi à l'Assemblée.
Elle existe déjà.
Oui, parce que comme c'est l'humanité, ils avaient voté.
Elle existe déjà.
Les 89 députés de l'Assemblée nationale avaient voté cela.
Mais il ne le sait pas.
Quand c'est Attal qui le dit, c'est magnifique. Quand c'est Bardella qui dit, c'est attention le fascisme.
Ah bah non. Voilà, je vais certainement pas te dire.
Il faut un retour de l'autorité.
Que quand c'est Attal qui le dit, c'est magnifique.
Et malheureusement, oui. Moi, j'ai des amis qui sont profs en banlieue et c'est compliqué parfois de se faire respecter. Bah oui.
Apolline Matin, le dérèglement climatique. L'État va-t-il devoir abandonner des territoires ? Il y a 4 ans, la tempête Alex avait dévasté la vallée de la Vésubie dans les Alpes-Maritimes. Routes, ponts avaient été détruits et tous n'ont pas été reconstruits. Or, il pleut fortement en ce moment, et les installations provisoires, elles n'ont pas tenu le coup.
dans la vallée de la Vésubie, excédé, l'adjoint au maire de Saint-Martin-Vésubie, Thierry Ingigliardi, témoignait ce matin sur RMC.
Ce qui est énervant dans l'affaire, c'est qu'avec 50 mm d'eau, c'est-à-dire pratiquement rien, tout est détruit. Donc ça, c'est insupportable. Là, maintenant, au bout de 4 ans, c'est plus possible que nous, on reste comme ça. Déjà, les habitants en marre, on perd tous les habitants petit à petit. Imaginez-vous habiter ici, où chaque fois qu'il pleut, je ne parle pas de tempête, hein, chaque fois qu'il pleut, toutes les routes ont disparu. Voilà. Donc c'est carrément insupportable. Voilà. Parce que partout, les ouvrages définitifs sont terminés, on n'a absolument aucun problème.
Est-ce qu'il y a des territoires, et on en est peut-être qu'au début, en tout cas c'est ce que nous disent les climatologues, est-ce qu'il y a des territoires entiers de la France, et là on est dans la vallée de la Vésubie, Fred, je me tourne vers toi, Frédéric Ramel, je pourrais parler de certains coins du Pas-de-Calais, la question s'est posée lors des inondations à répétition qu'il y a eu cet hiver, est-ce qu'il y a des coins de notre pays qu'il va falloir... Où on ne pourra plus habiter.
Déjà les abandonnés. Bah moi je me refuse de penser à ça. Alors tu parlais du Pas-de-Calais. On sait aussi pourquoi. Comment les normes européennes avaient empêché, notamment les agriculteurs, de curer les fossés. Voilà. Enfin il y a aussi remettre un petit peu de bon sens et remettre parce que c'est pas que maintenant qu'il y a des problèmes climatiques. C'est-à-dire nos aînés savaient aussi comment traiter ce genre de choses.
Sauf donc qu'ils
revenir
qu'ils s'amplifient et deviendront plus nombreux.
Ils s'amplifient, mais quand il y a des normes, quand tu empêches les gens de faire ce qu'on a fait depuis 200 ans ou 300 ans, bah oui, ça peut être un problème. Mais moi, je me refuse.
Et lorsque la mer va monter de niveau, tu pourras avoir curé ton ruisseau, ça ne changera rien.
Mais non, mais là, on parle des inondations là. Si ce monsieur parler des ouvrages. Oui, il faut refaire les ouvrages. Ben oui. De toute façon, le gros problème, c'est que la ruralité est totalement...
On recommence.
Mais c'est qu'en 4 ans, les gens,
ils ont besoin
d'épaules
aussi pour traverser. Ouais. On va pas leur dire, on va vous déplacer.
Ouais. D'accord.
Ben non, je suis désolé. Excuse-moi, ils ont tout cassé en banlieue, on est en train de reconstruire. Et les gens, qu'il y a eu des inondations,
les stations de sport d'hiver où il n'y a plus de neige, et ben on met de l'artificiel, on continue.
Ah moi j'y vais jamais, moi je suis jamais allé. Moi je m'en fous, je suis jamais allé.
Tu t'en fous de l'économie locale.
Je n'ai jamais fait de sport d'hiver.
Mais ces économies locales là, donc on les subventionne, on fait quoi?
Il faut savoir si on veut des emplois ou pas.
D'accord.
Après il faut revoir. Il faut une certaine transition pour maintenir les emplois. Parce que c'est bien beau. Parce que d'abandonner des territoires, ça veut dire que ce sont des gens qui vont plus pouvoir vivre, plus pouvoir travailler.
Ouais.
Et ce sera le désert.
Ouais. Ce qu'on appelle des réfugiés climatiques.
On n'en est pas là en France quand même.
Ah bah ça va se calmer un peu. Ça viendra après.
Il y a plusieurs sujets en même temps. Ce que le maire de Saint-Martin-Vésubie, ok, c'est qu'il disait là où les reconstructions définitives ont été faites, tout va
ça
bien.
Ça marchait, voilà.
C'est toujours pas fait. Donc là, visiblement,
il faut
une défaillance de l'État et des collectivités dans les reconstructions. Après, il y a aussi un sujet. Qu'est-ce qu'on reconstruit ou on le reconstruit? J'en rappellerai pour l'anecdote. Je vais faire aussi mon petit côté. C'était mieux avant. Rappelez-vous, je crois qu'il y a une trentaine d'années, il y avait eu d'énormes inondations à Vaison-la-Romaine.
Ouais. Bah oui.
Le seul pont de Vaison-la-Romaine qui s'est pas effondré,
c'est le pont romain.
Donc
Bon, monsieur.
Il faut se poser des questions. Ouais. C'est pas seulement parce qu'ils construisaient mieux, parce qu'ils n'avaient pas les technologies qu'on a. C'est aussi surtout des questions de sens d'emplacement, de lieu de positionnement, etc.
On est d'accord.
Donc là, tu parlais des curages historiques, mais tu vois, j'en remontais au pont romain. Je dis ça parce que il faut aussi des fois, c'est pas que c'était mieux avant. C'est que des fois avant, comme on n'avait pas le choix que de respecter les rythmes et les chocs naturels,
on n'allait pas contre la nature.
On s'y pliait parce qu'on n'avait pas le choix. Nous, et pour plein d'endroits, on a réussi à dominer la nature, tant mieux. Mais il y a un moment où on se rappelle qu'effectivement, ça marche pas. Et après, il va falloir, et pour le troisième sujet que tu évoquais, là, il va falloir reconvertir des zones. Effectivement, on va pouvoir maintenir des sports d'hiver avec un coup de neige artificielle qui coûte un pognon. C'est-à-dire, vaut mieux, ça coûte encore plus cher que de subventionner des gens à rester chez eux tellement ça coûte cher. Donc, par contre, ce qu'on n'a pas fait depuis 30 ans, parce que ce qui se passe là, on le voit arriver depuis 30 ans. Et on a continué, par exemple, d'entretenir la montagne dans cette démarche du sport d'hiver,
et de construire.
Montagne, c'est pas que les sports d'hiver, ne l'oublions jamais. On peut faire d'autres choses en montagne, même l'hiver quand il n'y a pas neige, mais il va falloir accompagner pour le convertir. Parce qu'on peut pas dire à des territoires entiers, on vous a dit, vous faites que de la monoactivité là-dessus. Du jour au lendemain, des règlements climatiques, vous vous démerdez.
C'est la différence entre lutter contre et faire avec. Et maintenant, il va falloir qu'on apprenne à faire avec.
Les GG, pour ou contre la tribune de ces 800 professionnels membres de la culture contre l'extrême droite? Paru dans le journal Le Monde, cette tribune est signée notamment par Gilles Lelouch, Sonia Roland, Cédric Lapiche ou encore Nagui, et elle appelle les Français à se mobiliser contre le RN pour que la France des Lumières conserve un avenir. Une tribune contre-productive selon la chef d'entreprise Flora Gébati.
Les artistes, comme tout le monde dans la société, ont le droit de s'exprimer et ont souvent des choses à dire qui sont intéressantes de leur sensibilité d'artiste. Après, c'est vrai que Didier me convainc, je suis assez d'accord sur l'idée que la grosse pétition, 800 noms, 500 artistes pour la culture, c'est des vieilles recettes, un peu comme la lettre d'Emmanuel Macron aux Français. C'est un peu des vieilles recettes de communication politique et moi je préférais avoir moins d'artistes qui parlent mais avoir une parole sincère, par exemple des artistes binationaux qui nous raconteraient leur expérience, ça serait peut-être plus utile pour convaincre que ces grosses pétitions qui sont mais un peu des vieilles méthodes.
Pierre-Edouard, est-ce que tu es d'accord avec Flora Gebali?
Ben, je suis plutôt d'accord. Alors, ces artistes ont parfaitement le droit de faire ce qu'ils veulent, ils ont le droit de s'exprimer. Moi, je trouve ça très bien. Après, la capacité de prescription des grands noms de la culture est proche de zéro aujourd'hui. On n'est plus dans les années 80. On a le droit de le regretter, mais ça ne marche plus. Et je suis assez d'accord. Je pense même que c'est un peu contre-productif parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit évidemment une élite culturelle et sociale et économique de fait qui vient dire, c'est comme ça que c'est perçu, aux braves gens, aux braves gens, écoutez, braves gens, suivez les lumières, c'est nous, et on vous dit qu'il faut voter contre le RN. Bon, on connaît ici mes positions, donc je suis pas vraiment suspect de faire la campagne du RN, mais je pense que c'est parfaitement contre-productif. En plus, on renvoie à nouveau dans ce qu'on appelle ce point Godwin, vous savez, c'est la réduction à Hitler. Bon, on arrive toujours à l'extrême droite. Je le répète, le RN d'aujourd'hui, Marine Le Pen, Gérard Bardella, c'est ni Hitler et ni Mussolini, et ça sert à rien de le dire parce que ça les renforce. Je veux dire, à la limite, en matière d'extrême droite, vous avez Orban et Meloni en Europe, ça suffit à me faire peur, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, et je crains vraiment que ce genre de pétition, je répète, c'est leur droit, mais je pense que ça ne sert à rien et que même, ça renforce les gens qui votent contre ce quoi ils s'expriment, ça les renforce dans leur vote et dans leur conviction, et ça scinde, je parlais des découpeurs de société, ça scinde encore la société.
Sauf que...
Le vote RN est aussi un vote anti-élite. Après, ils sont pas élites de grand chose, hein. Faut pas non plus, il y a pas que des génies dans les 800 signataires. Mais je suis 100% d'accord avec toi, Pierre-Edouard. C'est un cadeau que ces gens-là font au RN. Et plus il y a de tribunes, plus il y a de barrages, c'est le super mot, le barrage, plus il y a de barrages qui sont établis par des gens qui sont absolument détestés par le peuple, plus
hein
le peuple
mais depuis quand ces 800 là sont détestés par le peuple
la plupart, et tu regardes, alors là on a nommé les 4 5 6 personnes, mais le reste, les gens, mais on n'a rien à foutre des gens qui signent là. Les gens votent, c'est le phénomène Trump aussi, quand t'avais tout Hollywood qui appelait à voter contre Trump, et les gens qui se sentent méprisés par ces élites là votent contre ce système là aussi. Et dans le vote RN, il y a aussi un vote anti-parisien, anti-parisaniste, anti, d'ailleurs on voit très bien à Paris. Toute la France a voté RN en majorité, sauf Paris. Tu regardes la carte, tu te regardes les couleurs, ça veut bien dire quelque chose.
Donc, avec Pierre-Edouard, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne.
pour d'autres raisons.
La toute petite courante.
Comme ça. Mais en fait, les gens de mon village, que Nagui leur dise, attention, faut pas voler RN, mais ça leur donne envie de voter RN.
Alors moi je suis pas d'accord avec vous.
Nagui ou
je suis pas d'accord avec vous. Je trouve on leur a reproché pendant des semaines de se taire à tous les artistes alors que en 2002 ils étaient tous vent debout contre Jean-Marie Le Pen. On leur a reproché pendant des semaines de se taire.
Les Européennes, c'est le 9 juin.
Oui bah voilà, ça fait deux semaines déjà Donc ça fait deux semaines qu'on leur mais même avant on leur reprochait de se taire avant les Européennes, de se taire, de ne pas prendre parti
sur le sujet des Européennes
parce que leur public aujourd'hui est composé, leur public, leur audience à 40 ou 33% que sais-je de RN. Là, on en a 800 qui s'engagent. Alors après, ça me touche ce que dit Flora par rapport à la sincérité, mais on sait quand même que la culture est le parent pauvre du programme du RN. Il suffit de regarder. Donc, ils ont le droit d'être inquiets, ils ont le droit de s'exprimer.
Il faut regarder dans les villes gérées par le RN. Voilà. Je connais Hénin Beaumont, par exemple. Ouais. Au niveau culturel, les gens sont très contents.
Oui, mais il y a plein de villes où ça s'est très mal passé.
Et voilà. Steve Briouat était réélu au premier tour, aux dernières municipales.
Un exemple.
Et des gens qui avaient voté contre lui ont voté pour lui.
Et je suis désolée,
ça, c'est pas un jugement, c'est un fait.
Quand nous, les féministes, ce que tu dis, ça sert à rien, c'est contre-productif.
C'est pas que des heureux non plus.
Non, mais enfin, il a été réélu au premier tour lors de six ans plus tard.
Tu dis c'est contre-productif, mais quand nous les féministes on a défilé dans toutes les villes de France, dans 50 villes de France dimanche, c'est pas pour rien, c'est pour alerter aussi sur nos sujets en disant voilà, ça va être problématique si c'est le RN qui passe sur nos sujets.
La manifestation, c'est aussi aller à la rencontre d'eux. Moi, je reviens aux bases. Il faut, si on veut combattre les votes extrémistes, quels qu'ils soient, à l'extrême droite, il faut revenir au principe de ce qu'on appelait dans le temps l'éducation populaire, les structures d'éducation.
On est d'accord, mon ami. Ah oui,
l'éducation populaire, c'est une méthode et ça commence par aller vers, discuter avec les gens, réfléchir avec eux. Les déclarations, si respectables soient-elles, qui viennent d'en haut, ne fonctionnent plus. Je veux dire, aujourd'hui, Sartre et Aron sont morts. Je pense que c'est de là. D'abord, je compare pas ce qu'il y a là, Sartre et Aron.
Oui, encore à l'époque.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, tu avais des intellectuels qui avaient des capacités de prescription sur la société. Aujourd'hui, ça n'est plus vrai.
Allez, les GG, buvez-vous encore du vin rouge. C'est une première historique en France. Le vin rouge n'a plus la cote et est désormais détrôné par les vins blancs et rosés. Une situation qui fait dire à l'agriculteur des GG que notre mode de vie est en train de changer.
Tout fout le camp.
Tu bois du rosé, toi, Didier ?
Plus blanc, moi. Non, je suis pas rosé du tout, j'ai horreur de ça.
On a plus d'alcool.
Et le rosé, ça reste un sous-vin qui est fait dans des endroits où le vin n'est pas bon.
Ah, carrément, c'est un sous-vin.
Oui, mais ça, c'est pour agacer Alain. Non, mais il y a une vraie spécificité du rosé. C'est une mode, voilà, c'est une mode. Ça permet aussi, dans certains vignobles,
avec
où il
n'y
a pas de grands rouges, enfin, dans des vignobles où il y a des grands rouges, de passer des vignes un peu plus jeunes, tu vois. Le rosé demande moins d'excellence culturelle qu'un grand rouge.
Ah bah, il voilà, n'y a pas de grand cru en rosé, quoi.
Voilà. Le rouge, ça reste un truc un peu initié. Le rouge français particulièrement, qui varie d'une année sur l'autre, qui demande une initiation, une culture, une éducation à boire du rouge et l'apprécier, quoi.
Je vais commencer par là, toujours avec modération.
Oh oui.
Mais il a suffit que je prononce vin rouge et je t'ai vu pour dire de ta chaise.
Il a failli tomber. Hein.
Frédéric Arabel, t'as failli en tomber. Ouais.
Mais oui, mais mon ami Didier Giraud, agriculteur, bien entendu qu'il a raison. Bien entendu, le rosé est un sous-vin, bien entendu. Et le rouge, c'est la vie. Alors moi, je bois un
c'est
petit blanc.
Violence,
tout ça.
C'est
mais le violence. Rouge, c'est moi, j'aime le vin de Bordeaux. Par
les producteurs de vin rosé, il y en a des bons.
Mais oui, non, mais excuse-moi, j'ai le droit de donner mon avis. Excuse-moi. Ça fout mal au crâne et tout.
Pas le grand.
Moi, j'aime le Bordeaux rouge. Voilà. J'aime le Bordeaux rouge, je trouve que c'est le meilleur vin du monde, c'est extraordinaire. Et c'est aussi le fait qu'on boive moins de rouge, un signe de la décadence de notre pays. Et de la je suis très sérieux, et de la déculturisation de notre pays.
Est-ce que tu penses que ce pourrait être
boire du rosé?
Est-ce que ce pourrait être la pierre qui manquera à l'édifice France et la France pourrait s'effondrer?
Je le pense. Mais c'est aussi un signe, je suis très sérieux, de l'américanisation de la société. On boit du Chardonnay, tu vois ce que je veux dire? C'est les séries américaines, on boit du rosé ou on boit du blanc. C'est toute cette culture-là. Voilà. Parce que moi, je te dis, monsieur, dans Max et les Ferrailleurs, dans Les choses de la vie, on buvait du Bordeaux rouge qui tâche.
Voilà. Enfin, c'est dégueulasse. Merci Frédéric Hermel. Dans un instant, RMC s'engage avec vous. Saint-Tropez.
Bah, je suis désolée, j'ai pas pu m'exprimer en tant que bourguignonne. Je t'en prie,
on fera une autre émission. Saint-Tropez, c'est vedette, c'est yacht.
Son rosé.
Et une sombre histoire de corruption présumée. C'est dans un instant, dans Estelle Midi, sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story. Amélie Rosic nous a rejoint, on va à Saint-Tropez. Si, si.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Douyou, forcément, Amélie.
Salut Rémi.
Aujourd'hui, tu nous fais des révélations sur des soupçons, là c'est très sérieux, de corruption. Dans le port de Saint-Tropez.
Oui, est-ce que t'as déjà garé ton yacht de 50 mètres
Non, j'étais juste à côté.
Non, je rigole, mais c'est hyper sérieux. Évidemment, Saint-Tropez, c'est les plages privées, les boîtes de nuit branchées, les yachts aussi de milliardaires. Et c'est précisément de ça dont je vais vous parler. Le port le plus prisé de Côte d'Azur reçoit des milliers de plaisanciers chaque été. Et pour jeter l'ancre dans cette baie mythique, en plus du prix de la réservation, un ex-agent portuaire dénonce des versements de pots de vin en liquide auprès de la capitainerie. C'est une information RMC suite à sa plainte. Une enquête a été ouverte il y a 2 semaines pour corruption. Elle est menée par la brigade de gendarmerie de Saint-Tropez. Le lanceur d'alerte a accepté de témoigner en exclusivité pour RMC sous couvert d'anonymat. Il est au micro d'Abeline Lafchin.
Ça négocie et ensuite on confirme la place. En dessous de 1000 euros d'espèces, ils prennent même pas le bateau. Là, il y a un bateau qui dit avoir donné 5000 euros pour 3 jours. Et ça peut monter à 10-15 000 euros demandés pour entrer au port. Après, ils cherchent toujours à savoir de quelle origine ils sont. Donc, si c'est des Arabes, si c'est des Russes, si c'est des Américains. Parce que, en fonction de la nationalité, ils vont demander plus ou moins.
Voilà, donc, ça serait quand même des grosses enveloppes. Quoi.
Voilà, à la tête du client. Hein. En gros, selon nos informations, la police enquête sur des agents à la fois de la capitainerie et de la mairie. Et le réseau serait même beaucoup plus vaste.
Ils passent par des intermédiaires. Donc, ça va être des concierges, ça va être des serveurs des grosses discothèques ou des grosses plages où il y a les milliardaires qui viennent. On sait tous ce qui se passe. Tout le monde a peur de perdre sa place, donc tout le monde se tait. Et puis certains en profitent, et puis ça continue.
Et ce que nous dit ce lanceur d'alerte, c'est qu'en fait, ça fait des années que ça dure. C'est le procureur de la République de Draguignan qui est saisi de l'affaire. Il n'a pas souhaité la commenter. Mais selon nos informations, des auditions ont déjà été menées. Et évidemment, maintenant, il va falloir répondre aux questions les plus importantes. Qui est impliqué? Où va l'argent? Oui. Et à qui profite-t-il?
Amélie, ces faits, s'ils sont avérés, sont extrêmement graves. Évidemment, que répondent les principaux intéressés?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2010, le port de Saint-Tropez, il est géré à nouveau directement par la municipalité, comme c'est le cas pour plusieurs ports de Côte d'Azur. La capitainerie compte une quarantaine de salariés. Nous avons évidemment demandé des explications à la mairie qui nous a transmis un long courrier de 6 pages qu'on a lu attentivement. Le cabinet de la maire d'Hiver Droite, qui est en poste depuis 4 ans, s'est dit étonné et choqué par ces soupçons totalement infondés. Je cite, la ville explique qu'en fait le système de réservation des places au port rendrait le contournement impossible. En gros, tout se passe sur internet, sur 2 sites internet, en fonction de la taille du bateau, et donc il y aurait une traçabilité en fait de tout le système, et les tarifs sont réglementés en fonction de la taille du bateau. Exemple, pour un yacht de 50 mètres au Vieux-Port, la place coûte environ 2000 euros, pardon, pas 200 euros par jour en pleine saison. Et surtout,
quand on a un yacht de 50 mètres, les 2000 euros on peut les
mettre, je sais pas, j'ai jamais eu de yacht de 50 mètres, mais bon.
Faut demander à Frédéric Belge.
Et en tout cas, ce que nous dit aussi la mairie, c'est que seul le directeur du port peut valider une demande de réservation. D'accord. Sauf qu'en fait, la capacité du port, c'est un petit port, même s'il est très connu, c'est 734 bateaux, c'est peu et c'est surtout insuffisant pour faire face aux besoins. Selon notre lanceur d'alerte, c'est en fait tout simplement la loi de l'offre et de la demande qui favoriserait la corruption.
Bon, quoi qu'il en soit, une enquête est ouverte.
Oui.
Donc on va évidemment suivre son développement et on y reviendra.
Et les protagonistes nous écoutent probablement.
Affaire très sérieuse. Bon, je vais finir avec un peu plus de légèreté, si tu le permets.
Bah bien sûr, avec plaisir.
Je rappelle que l'enquête est confiée à la gendarmerie de Saint-Tropez.
Ça aussi, c'est la lutte contre la décadence de la France.
Oui, tout à fait. Allez, dans un instant, la suite d'Estelle Midi. Tiens, Amélie, est-ce que tu fais beaucoup de lessives?
Non, pas du tout, je crois pas. J'avais l'impression de faire beaucoup de lessives, c'est-à-dire une fois par semaine, et en fait, je me suis aperçu que pas du tout.
Parce que c'est très sérieux, il y a une étude qui tire un peu de la sonnette d'alarme. On fait beaucoup trop de lessives. J'ai découvert ce matin que.
Mais c'est quoi trop de lessives?
On met une fois par jour. Non, mais voilà.
4 à 5 par semaine, par ménage.
Alors qu'il y a encore 10, 15 ans, 20 ans, c'était beaucoup moins. Il faut se rappeler que l'eau de la lessive, tous les produits chimiques qui partent dans les canalisations, c'est la première source de pollution en plastique de nos océans. Et donc, on vous pose la question, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu devenu maniaque sur les bords?
Alors, moi, pas du tout.
Bon, très bien. On va en parler. Vous nous appelez au 3216. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.